Anatole France, Les dieux ont soif. Évariste Gabelin, peintre, élève de David, membre de la section du Pont-Neuf, précédemment section Henri IV, s'était rendu de bon matin à l'ancienne église des Barnabites, qui depuis 3 ans, depuis le 21 mai 1790, servait de siège à l'assemblée générale de la section. Cette église s'élevait sur une place étroite et sombre, près de la grille du palais. Sur la façade, composée de 2 ordres classiques, ornés de consoles renversées de pots à feu, attristés par le temps, offensés par les hommes, les emblèmes religieux avaient été martelés et on avait inscrit en lettres noires au-dessus de la porte la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Évariste Gamelin pénétra dans la nef et les voûtes qui avaient entendu les clercs de la congrégation de Saint-Paul chanter en rochet les offices divins, voyaient maintenant les patriotes en bonnet rouge assemblés pour élire les magistrats municipaux et délibérer sur les affaires de la section. Les saints avaient été tirés de leur niche et remplacés par des bustes de Brutus, de Jean-Jacques et de Le Pelletier. La table des droits de l'homme se dressait sur l'autel dépouillé. C'est dans cette nef que, 2 fois par semaine, de 5 heures du soir à 11 heures, se tenaient les assemblées publiques. La chaire, ornée du drapeau aux couleurs de la nation, servait de tribune aux harangues. Vis-à-vis, du côté de l'église épître, une estrade de charpentes grossières s'élevait, destinée à recevoir les femmes et les enfants qui venaient en assez grand nombre à ces réunions. Ce matin-là, devant un bureau au pied de la chaire, se tenait en bonnet rouge et carmagnole le menuisier de la place de Thionville, le citoyen Dupont aîné, l'un des 12 du comité de surveillance. Il y avait sur le bureau une bouteille et des verres, une écritoire et un cahier de papier contenant le texte de la pétition qui invitait la Convention à rejeter de son sein les 22 membres indignes. Évariste Gamelin prit la plume et signa. « Je savais bien, dit le magistrat artisan, tu viendrais donner ton nom, citoyen Gamelin. Tu es impur. Mais la section n'est pas chaude, elle manque de vertu. J'ai proposé au comité de surveillance de ne point délivrer de certificat de civisme à quiconque ne signerait pas la pétition. Mais je suis prêt à signer de mon sang, dit Gamelin, la proscription des traîtres fédéralistes. Ils ont voulu la mort de Marat, qu'ils périssent. Ce qui nous perd, répliqua Dupont aîné, c'est l'indifférentisme. Dans une section qui contient 900 citoyens ayant droit de vote, il n'y en a pas 50 qui viennent à l'Assemblée. Hier, nous étions 28. Eh bien, dit Gamelin, il faut obliger, sous peine d'amende, les citoyens à venir. Fit le menuisier en fronçant le sourcil. S'ils venaient tous, les patriotes seraient en minorité. Allez, citoyen Gamelin, veux-tu boire un verre de vin, la santé des bons sans culottes? Sur le mur de l'église, du côté de l'évangile, on lisait ces mots accompagnés d'une main noire dont l'index montrait le passage conduisant au cloître. Comité civil, comité de surveillance, comité de bienfaisance. Quelques pas plus avant, on atteignait la porte de la ci-devant sacristie que surmontait cette inscription « Comité militaire ». Gamelin la poussa et trouva le secrétaire du comité qui écrivait sur une grande table encombrée de livres, de papiers, de lingots d'acier, de cartouches et d'échantillons de terre salpêtrée. « Salut, citoyen Trubert, comment vas-tu ? Moi, je me porte à merveille. » Le secrétaire du comité militaire, Fortuné Trubert, faisait invariablement cette réponse à ceux qui s'inquiétaient de sa santé, moins pour les instruire de son état, que pour couper court à toute conversation sur ce sujet. Il avait à 28 ans la peau aride, les cheveux rares, les pommettes rouges, le dos voûté. Opticien, sur le quai des Orfèvres, il était propriétaire d'une très ancienne maison qu'il avait cédée en 91 à un vieux commis pour se dévouer à ses fonctions municipales. Une mère charmante, morte à 20 ans et dont quelques vieillards dans le quartier gardaient le touchant souvenir, lui avait donné ses beaux yeux doux et passionnés, sa pâleur, sa timidité. De son père, ingénieur opticien, fournisseur du roi, emporté par le même mal avant sa 30e année, il tenait un esprit juste et appliqué. Sans s'arrêter d'écrire, « Et toi, citoyen, comment vas-tu ? » « Bien, quoi de nouveau ? » ?»« Rien, tu vois, tout est bien tranquille ici. » Et la situation, oh, la situation est toujours la même. La situation était effroyable. La plus belle armée de la République investie dans Mayence, Valenciennes assiégée, Fontenay pris par les Vendéens, Lyon révolté, les Cévennes insurgées, la frontière ouverte aux Espagnols, les 2/3 des départements envahis ou soulevés, Paris sous les canons autrichiens, sans argent, sans pain. Fortuné Trubert écrivait tranquillement. Les sections étant chargées par arrêté de la commune d'opérer la levée de 12 000 hommes pour la Vendée, il rédigeait des instructions relatives à l'enrôlement et l'armement du contingent que le Pont-Neuf, ci-devant Henri IV, devait fournir. Tous les fusils de munitions devaient être délivrés aux réquisitionnaires. La garde nationale de la section serait armée de fusils de chasse et de piques. « Je t'apporte, dit Gamelin, l'état des cloches qui doivent être envoyées au Luxembourg pour être converties en canons. » L'évariste Gamelin, bien qu'il ne possédât pas un sou, était inscrit parmi les membres actifs de la section. La loi n'accordait cette prérogative qu'aux citoyens assez riches pour payer une contribution de la valeur de 3 journées de travail. Et elle exigeait 10 journées pour qu'un électeur fût éligible. Mais la section du Pont-Neuf, éprise d'égalité et jalouse de son autonomie, tenait pour électeur et pour éligible tout citoyen qui avait payé de ses deniers son uniforme de garde nationale. C'était le cas de Gamelin, qui était citoyen actif de sa section et membre du comité militaire. Fortuné Trubert posa sa plume. « Citoyen Évariste, tu vas donc à la Convention demander qu'on nous envoie des instructions pour fouiller le sol des caves, lessiver la terre et les moellons et recueillir le salpêtre. C'est pas tout que d'avoir des canons, il faut aussi de la poudre. » Et un petit bossu, la plume à l'oreille et les papiers à la main, entra dans le ci-devant sacristie. C'était le citoyen Beauvisage du comité de surveillance. « Citoyen, dit-il, nous recevons de mauvaises nouvelles. Custine a évacué l'Ordeau. »« Bon, Custine est un traître, s'écria Gamelin. « Il sera guillotiné, dit Beauvisage. » Trubert, de sa voix un peu haletante, s'exprima avec son calme ordinaire. La Convention n'a pas créé un comité de salut public pour des prunes. La conduite de Custine y sera examinée. Incapable ou traître, il sera remplacé par un général résolu à vaincre. Et ça ira. Il feuilleta des papiers, y promena le regard de ses yeux fatigués. Pourvu que nos soldats fassent leur devoir sans trouble ni défaillance, il faut qu'ils sachent que le sort de ceux qu'ils ont laissés dans leur foyer est assuré. Si tu es de cet avis, citoyen Gamelin, tu demanderas avec moi, à la prochaine assemblée, que le comité de bienfaisance se concerte avec le comité militaire pour secourir les familles indigentes qui ont un parent à l'armée. Il sourit et fredonna. Ça ira, ça ira. Travaillant 12 et 14 heures par jour devant sa table de bois blanc, à la défense de la patrie en péril, cet humble secrétaire d'un comité de section ne voyait point de disproportion entre l'énormité de la tâche et la petitesse de ses moyens, tant il se sentait uni dans un commun effort à tous les patriotes, tant il faisait corps avec la nation, tant sa vie se confondait avec la vie d'un grand peuple. Il était de ceux qui, enthousiastes et patients, après chaque défaite, préparaient le triomphe impossible et certain. Aussi bien leur fallait-il vaincre. Ces hommes de rien, qui avaient détruit la royauté, renversé le vieux monde, ce Trubert, petit ingénieur opticien, cet Évariste Gamelin, peintre obscur, n'attendaient point de merci de leurs ennemis. Ils n'avaient de choix qu'entre la victoire et la mort. De là leur ardeur et leur sérénité. Au sortir des Barnabites, Évariste Gamelin s'achemina vers la place Dauphine, devenue place de Thionville, en l'honneur d'une cité inexpugnable. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Les hôtels construits sur les trois faces au temps de Henri IV, uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche, pour des magistrats magnifiques, maintenant, ayant échangé leur noble toit d'ardoise contre deux ou trois misérables étages en plâtre, ou même rasés jusqu'à terre, et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux, n'offraient plus que des façades irrégulières, pauvres, sales, percées de fenêtres inégales, étroites, innombrables, qu'égayaient des pots de fleurs, des cages d'oiseaux et des linges qui séchaient. Là logeait une multitude d'artisans, bijoutiers, ciseleurs, horlogers, opticiens, imprimeurs, lingères, modistes, blanchisseuses, et quelques vieux hommes de la loi qui n'avaient point été emportés dans la tourmente avec la justice royale. C'était le matin et c'était le printemps. De jeunes rayons de soleil enivrants comme du vin doux riaient sur les murs et se coulaient gaiement dans les mansardes. Les châssis des croisés à guillotine étaient tous soulevés et l'on voyait au-dessous les têtes échevelées des ménagères. Le greffier du tribunal révolutionnaire, sorti de la maison pour se rendre à son poste, tapotait en passant les joues des enfants qui jouaient sous les arbres. On entendait crier sur le pont neuf la trahison de l'infâme Dumouriez. Évariste Gamelin habitait sur le côté du côté de l'horloge une maison qui datait de Henri IV et refait encore assez bonne figure, sans un petit grenier couvert de tuiles dont on l'avait exaucé sous l'avant-dernier tyran. Pour approprier l'appartement de quelques vieux parlementaires aux convenances des familles bourgeoises et artisanes qui y logeaient, on avait multiplié les cloisons et les soupentes. C'est ainsi que le citoyen Remarque, le concierge tailleur, nichait dans un entresol fort abrégé en hauteur comme en largeur. On ne voyait pas la porte vitrée, les jambes croisées sur son établi et la nuque au plancher, causant un uniforme de garde nationale, tandis que la citoyenne Remacle, dont le fourneau n'avait pour cheminée que l'escalier, empoisonnait les locataires de la fumée de ses ragoûts et de ses fritures, et que, sur le seuil de la porte, la petite Joséphine, leur fille, barbouillée de mélasse et belle comme le jour, jouait avec Mouton, le chien du menuisier. La citoyenne Remacle, abondante de cœur, de poitrine et de reins, passait pour accorder ses faveurs à son voisin, le citoyen Dupont aîné, l'un des 12 du comité de surveillance. Son mari, tout du moins, l'en soupçonnait véhantement, et les époux Remarque emplissaient la maison des éclats alternés de leurs querelles et de leurs raccommodements. Les étages supérieurs de la maison étaient occupés par le citoyen Chaperon, orfèvre, qui avait sa boutique sur le quai de l'horloge, par un officier de santé, par un homme de loi, par un batteur d'or et par plusieurs employés du palais. Évariste Gamelin monta l'escalier antique jusqu'au quatrième et dernier étage, où il avait son atelier avec une chambre pour sa mère. Là finissaient les degrés de bois garnis de carreaux qui avaient succédé aux grandes marches de pierre des premiers étages. Une échelle appliquée au mur conduisait à un grenier, d'où descendait pour lors un gros homme assez vieux, d'une belle figure rose et fleurie, qui tenait péniblement embrassé un énorme ballot et fredonnait toutefois « J'ai perdu mon serviteur !» S'arrêtant de chantonner, il souhaita courtoisement le bonjour à Gamelin, qui le salua fraternellement et l'aida à descendre son paquet, ce dont le vieillard lui rendit grâce. « Voyez là, dit-il en reprenant son fardeau, des pantins que je vais de ce pas livrer à un marchand de jouets de la rue de la Loi. Oh, il y en a ici tout un peuple. Ce sont mes créatures. Elles ont reçu de moi un corps périssable, exempt de joie et de souffrance. Je n'aurais pas donné la pensée, car je suis un dieu bon. » C'était le citoyen Maurice Brotteau, ancien traitant ci-devant noble. Son père, enrichi dans les parties, avait acheté une savonnette à Vilain. Au bon temps, Maurice Brotteau se nommait Monsieur des Illettes et donnait dans son hôtel de la rue de la Chaise des soupers fins que la belle Madame de Rochemaure, épouse d'un procureur, illuminait de ses yeux, femme accomplie dont la fidélité honorable ne se démentit point tant que la Révolution laissa Maurice Brotteau des Illettes ses offices, ses rentes, son hôtel, ses terres, son nom. La Révolution les lui enleva. Il gagna sa vie à peindre des portraits sous les portes cochères, à faire des crêpes et des beignets sur le quai de la Mégisserie, à composer des discours pour les représentants du peuple et à donner des leçons de danse aux jeunes citoyennes. Présentement, dans son grenier où l'on se coulait par une échelle où l'on ne pouvait pas se tenir debout, Maurice Brotteau, riche d'un pot de colle, d'un paquet de ficelles, d'une boîte d'aquarelle et de quelques rognures de papier, fabriquait des pantins qu'il vendait à de gros marchands de jouets, qu'il revendait aux colporteurs, qui les promenait par les Champs-Élysées, au bout d'une perche, brillant objet des désirs des petits-enfants. Au milieu des troubles publics et dans sa grande infortune dont il était lui-même accablé, il gardait une âme sereine, lisant pour se recréer son Lucrèce qu'il portait constamment dans la poche béante de sa redingote puce. Évariste Gamelin poussa la porte de son logis qui céda tout de suite. Sa pauvreté lui épargnait le souci des serrures. Et quand sa mère, par habitude, tirait le verrou, il lui disait « À quoi bon? On vole pas d'étoiles d'araignée ?» et les miennes pas davantage. Dans son atelier, s'entassaient sous une couche épaisse de poussière ou retournée contre le mur, l'étoile de ses débuts, alors qu'il traitait, selon la mode, des scènes galantes, caressait d'un pinceau lisse et timide des carquois épuisés et des oiseaux envolés, des jeux dangereux et des songes de bonheur, troussait des gardes-doigts et fleurissait de roses le sein des bergères. Mais cette manière ne convenait point à son tempérament. Ces scènes froidement traitées attestaient l'irrémédiable chasteté du peintre. Les amateurs ne s'y étaient pas trompés, et Gamelin n'avait jamais passé pour un artiste érotique. Aujourd'hui, bien qu'il n'eût pas encore atteint la trentaine, ces sujets lui semblaient datés d'un temps immémorial. Il y reconnaissait la dépravation monarchique et l'effet honteux de la corruption des cours. Il s'accusait d'avoir donné dans ce genre méprisable et montré un génie avili par l'esclavage. Maintenant, citoyen d'un peuple libre, il charbonnait d'un trait vigoureux des libertés des droits de l'homme, des constitutions françaises, des vertus républicaines, des Hercules populaires terrassant l'hydre de la tyrannie, et mettait dans toutes ses compositions toute l'ardeur de son patriotisme. Hélas, il n'y gagnait point sa vie. Le temps était mauvais pour les artistes. Ce n'était pas sans doute la faute de la Convention, qui lançait de toutes parts des armées contre les rois, qui, fiers, impassibles, résolus devant l'Europe conjurée, perfide et cruelle envers elle-même, se déchiraient de ses propres mains, qui mettaient la terreur à l'ordre du jour, instituaient pour punir les conspirateurs un tribunal impitoyable auquel allait donner bientôt ses membres à dévorer, et qui, dans le même temps, calme, pensive, amie de la science et de la beauté, réformait le calendrier, créait des écoles spéciales, décrétait des concours de peinture et de sculpture, fondait des prix pour encourager les artistes, organisait des salons annuels, ouvrait le muséum et, à l'exemple d'Athènes et de Rome, imprimait un caractère sublime à la célébration des fêtes et des deuils publics. Mais l'art français, autrefois si répandu en Angleterre, en Allemagne, en Russie, en Pologne, n'avait plus de débouchés à l'étranger. Les amateurs de peinture, les curieux d'art, grands seigneurs et financiers, étaient ruinés, avaient émigré ou se cachaient. Les gens que la Révolution avait enrichis, paysans, acquéreurs de biens nationaux, agioteurs, fournisseurs aux armées, croupiers du palais royal, n'osaient encore montrer leur opulence, et d'ailleurs ne se souciaient point de peinture. Il fallait ou la réputation de Regnault ou l'adresse du jeune Gérard pour vendre un tableau. Greuze, Fragonard, Ouin étaient réduits à l'indigence. Prudhon nourrissait péniblement sa femme et ses enfants en décidant des sujets que Copia gravait au pointillé. Les peintres patriotes, Hennequin, Vicard, Topino Lebrun, souffraient la faim. Gamelin, incapable de faire les frais d'un tableau, ne pouvait ni payer le modèle, ni acheter des couleurs, et il laissait à peine ébaucher sa vaste toile du tyran poursuivi aux enfers par les furies. Elle couvrait la moitié de l'atelier de figures inachevées et terribles, aux plus grandes que nature et d'une multitude de serpents verts dardant chacun de langues aiguës et recourbées. On distinguait au premier plan, à gauche, un Caron, maigre et farouche dans sa barque, morceau puissant et d'un beau dessin, mais qui sentait l'école. Il y avait bien plus de génie de naturel dans une toile de moindre dimension, également inachevée, qui était pendue à l'endroit le mieux éclairé de l'atelier. C'était un Oreste que sa sœur Électre soulevait sur son lit de douleur. Et l'on voyait la jeune fille écarter d'un geste touchant les cheveux emmêlés qui voilaient les yeux de son frère. La tête d'Oreste était tragique et belle, et l'on y reconnaissait une ressemblance avec le visage du peintre. Gamelin regardait souvent d'un œil attristé cette composition. Parfois, ses bras frémissants du désir de peindre se tendaient vers la figure largement esquissée d'Électre et retombait impuissant. L'artiste était gonflé d'enthousiasme et son âme tendue vers de grandes choses, mais il lui fallait s'épuiser sur des ouvrages de commande qu'il exécutait médiocrement parce qu'il devait contenter le goût du vulgaire et aussi parce qu'il ne savait point imprimer aux moindres choses le caractère du génie. Il décidait de petites compositions allégoriques que son camarade d'émail gravait assez adroitement, en noir ou en couleur, et que prenait à bas prix un marchand d'estampes de la rue Honoré, le citoyen Blaise. Mais le commerce des estampes allait de mal en pis, disait Blaise, qui depuis quelque temps ne voulait plus rien acheter. Cette fois, pourtant, Gamelin, que la nécessité rendait ingénieux, venait de concevoir une invention heureuse et neuve, du moins le croyait-il, qui devait faire la fortune du marchand d'estampes, du graveur et la sienne. Un jeu de cartes patriotique, dans lequel aux rois, aux dames, aux valets de l'ancien régime, il substituait des génies, des libertés et des égalités. Il avait déjà esquissé toutes ces figures, il en avait terminé plusieurs et il était pressé de livrer à Desmahis celles qui se trouvaient en état d'être gravées. La figure qui lui paraissait la mieux venue représentait un volontaire coiffé du tricorne, vêtu d'un habit bleu à parements rouges, avec une culotte jaune et des guêtres noires, assis sur une caisse, les pieds sur une pile de boulets, son fusil entre les jambes. C'était le citoyen de cœur, remplaçant le valet de cœur. Depuis plus de 6 mois, Gamelin dessinait des volontaires, et toujours avec amour. Il en avait vendu quelques-uns au jour d'enthousiasme. Plusieurs pendaient au mur de l'atelier. 5 ou 6, à l'aquarelle, à la gouache, aux 2 crayons, traînaient sur la table et sur les chaises. Au mois de juillet 92, lorsque s'élevaient sur toutes les places de Paris des estrades pour les enrôlements, quand tous les cabarets ornés de feuillages retentissaient des cris de « Vive la nation, vive libre ou mourir !» Gamelin ne pouvait passer sur le pont neuf ou devant la maison de ville sans que son cœur bondît vers la tente pavoisée sous laquelle des magistrats en écharpe inscrivaient les volontaires au son de la Marseillaise. Mais en rejoignant les armées, il eut laissé sa mère sans pain. Précédé du bruit de son souffle péniblement expiré, la citoyenne veuve Gamelin entra dans l'atelier, suante, rougeoyante, palpitante, la cocarde nationale négligemment pendue à son bonnet et prête à s'échapper. Elle posa son panier sur une chaise et, plantée debout pour mieux respirer, gémit de la cherté des vivres. Coutelière dans la rue du Grenelle-Saint-Germain, à l'enseigne de la ville de Châtellerault, tant qu'avait vécu son époux, et maintenant pauvre ménagère, la citoyenne Gamelin vivait retirée chez son fils le peintre. C'était l'aîné de ses 2 enfants. Quant à sa fille Julie, naguère demoiselle de mode de rue Honoré, le mieux était d'ignorer ce qu'elle était devenue, car il n'était pas bon de dire qu'elle avait émigré avec un aristocrate. « Seigneur Dieu !» soupira la citoyenne en montrant à son fils une miche de pâte épaisse et bise. « Le pain est hors de prix. Encore s'en vaut-il bien qu'il soit de pur froment. On trouve au marché ni œufs, ni légumes, ni fromage. À force de manger des châtaignes, nous deviendrons châtaignes. » Après un long silence, elle reprit. « J'ai vu dans la rue des femmes qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs petits-enfants. La misère est grande pour le pauvre monde. Il en sera ainsi tant que les affaires ne seront pas rétablies. »« Ma mère, » dit Gamelin en fronçant le sourcil, « la disette dont nous souffrons est due aux accapareurs et aux agioteurs qui affament le peuple et s'entendent avec les ennemis du dehors pour rendre la République odieuse aux citoyens et détruire la liberté. Voilà où aboutissent les complots des Brissotins, les trahisons des Pétiots et des Rolands. Heureux encore si les fédéralistes en armes ne viennent pas massacrer à Paris les patriotes que la famine ne détruit pas assez vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut taxer la farine et guillotiner quiconque spécule sur la nourriture du peuple. Fomente l'insurrection ou pactise avec l'étranger. La Convention vient d'établir un tribunal extraordinaire pour juger les conspirateurs. Il est composé de patriotes, mais ses membres auront-ils assez d'énergie pour défendre la patrie contre tous ses ennemis? Espérons à Robespierre, il est vertueux. Espérons surtout à Marat. Ah, celui-là aime le peuple, discerne ses véritables intérêts et les sert. Il fut toujours le premier à démasquer les traîtres, à déjouer les complots. Il est incorruptible et sans peur. Lui seul est capable de sauver la République en péril. La citoyenne Gamelin, secouant la tête, fit tomber de son bonnet sa cocarde négligée. « Laisse donc, Évariste, ton Marat est un homme comme les autres et qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Tu es jeune, tu as des illusions. Ce que tu dis aujourd'hui de Marat, tu l'as dit autrefois de Mirabeau, de Lafayette, de Pétion, de Brissot. » « Mais jamais !» s'écria Gamelin, sincèrement oublieux. Ayant dégagé un bout de la table de bois blanc encombré de papier, de livres, de brosses et de crayons, la citoyenne y posa la soupière de faïence, deux écuelles d'étain, deux fourchettes de fer, la miche de pain bis et un pot de piquette. Le fils et la mère mangèrent la soupe en silence et ils finirent leur dîner par un petit morceau de lard. La mère, ayant mis son fricot sur son pain, portait gravement sur la pointe de son couteau de poche les morceaux à sa bouche édentée et mâchait avec respect des aliments qui avaient coûté cher. Elle avait laissé dans le plat le meilleur à son fils, qui restait songeur et distrait. « Mange, Évariste, lui disait-elle, à intervalles égaux, mange !» Et cette parole prenait sur ses lèvres la gravité d'un précepte religieux. Elle recommença ses lamentations sur la cherté des vivres. Gamelin réclama de nouveau la taxe comme le seul remède à ses maux. Mais elle, il n'y a plus d'argent, les émigrés ont tout emporté, il n'y a plus de confiance, c'est à désespérer de tout. « Mais taisez-vous, ma mère, taisez-vous !» s'écria Gamelin. « Qu'importe nos privations, nos souffrances d'un moment, la Révolution fera pour les siècles le bonheur du genre humain. » La bonne dame trempa son pain dans son vin. Son esprit s'éclaircit, elle songea en souriant, au temps de sa jeunesse, quand elle dansait sur l'herbe à la fête du roi. Il lui souvenait aussi du jour où Joseph Gamelin, coutelier de son état, l'avait demandé en mariage, et elle conta par le menu comment les choses s'étaient passées. Sa mère lui avait dit « Habille-toi, nous allons sur la place de Grève, dans le magasin de M. Bienassis, orfèvre, pour voir écarteler Damien. » Elles eurent grand-peine à se frayer un chemin à travers la foule des curieux. Dans le magasin de M. Bienassis, la jeune fille avait trouvé Joseph Gamelin, vêtu de son bel habit rose, et elle avait compris tout de suite de quoi il retournait. Tout le temps qu'elle s'était tenue à la fenêtre pour voir le régicide tenaillé, arrosé de plomb fondu, tiré à quatre chevaux et jeté au feu, M. Joseph Gamelin, debout derrière elle, n'avait pas cessé de la complimenter sur son teint, sa coiffure et sa taille. Elle vida le fond de son verre et continua de se remémorer sa vie. « Je te mis au monde, Évariste, plutôt que je ne m'y attendais, par suite d'une frayeur que j'eus étant grosse sur le Pont-Neuf, où je faillis être renversé par des curieux qui couraient à l'exécution de M. de Lally. Oh, tu étais si petit à ta naissance que le chirurgien croyait que tu ne vivrais pas. Mais je savais bien que Dieu me ferait la grâce de te conserver. Alors je t'élevais de mon mieux, ne ménageant ni les soins ni la dépense. Il est juste de dire, mon Évariste, que tu m'en témoignas de la reconnaissance et que dès l'enfance, tu cherchas à m'en récompenser selon tes moyens. Tu étais d'un naturel affectueux et doux. Ta sœur n'avait pas mauvais cœur, mais elle était égoïste et violente. Tu avais plus de pitié qu'elle des malheureux. Quand les petits polissons du quartier dénichaient des nids dans les arbres, tu t'efforçais de leur tirer des mains les oisillons pour pour les rendre à leur mère, et bien souvent, tu n'y renonçais que foulé aux pieds, cruellement battu. Et à l'âge de 7 ans, au lieu de te quereller avec de mauvais sujets, tu allais tranquillement dans la rue en récitant ton catéchisme. Et tous les pauvres que tu rencontrais, tu les amenais à la maison pour les secourir, tant que je fus obligé de te fouetter pour t'ôter cette habitude. Tu ne pouvais pas voir un être souffrir sans verser des larmes. Et quand tu eus achevé la croissance, tu devins très beau. À ma grande surprise, tu ne semblais pas le savoir. Très différent cela de la plupart des jolis garçons, qui sont coquets et vains de leur figure. La vieille mère disait vrai. Évariste avait eu à 20 ans un visage grave et charmant, une beauté à la fois austère et féminine, les traits d'une Minerve. Maintenant, ses yeux sombres et ses joues pâles exprimaient une âme triste et violente. Mais son regard, lorsqu'il le tourna sur sa mère, reprit pour un moment la douceur de la première jeunesse. Elle poursuivit. « Tu aurais pu profiter de tes avantages pour courir les filles, mais tu te plaisais à rester près de moi à la boutique. Et il m'arrivait parfois de te dire de te retirer de mes jupes et d'aller un peu te dégourdir avec tes camarades. Jusque sur mon lit de mort, je te rendrai ce témoignage, Évariste, que tu es un bon fils. Après le décès de ton père, tu m'as prise courageusement à ta charge, bien que ton état ne te rapporte guère. Tu ne m'as jamais laissé manquer de rien. Et si nous sommes aujourd'hui tous deux dépourvus et misérables, je ne puis te le reprocher. La faute en est à la Révolution. » Il fit un geste de reproche, mais elle haussa les épaules et poursuivit. « Je ne suis pas une aristocrate. J'ai connu les grands dans toute leur puissance, et je puis dire qu'ils abusaient de leurs privilèges. J'ai vu ton père bâtonné par les laquais du duc de Canaleil parce qu'ils ne se rangeaient pas assez vite sur le passage de leur maître. Je n'aimais point l'Autrichienne, elle était trop fière et faisait trop de dépenses. Quant au roi, je l'ai cru bon. Il a fallu son procès, sa condamnation, pour me faire changer d'idée. Enfin, je ne regrette pas l'Ancien Régime, bien que j'y ai passé quelques moments agréables. Mais ne me dis pas que la Révolution établira l'égalité, parce que les hommes ne seront jamais égaux. C'est pas possible. Et on a beau mettre le pays sans dessus-dessous, il y aura toujours des grands et des petits, des gras et des maigres. » Et tout en parlant, elle rangeait la vaisselle. Le peintre ne l'écoutait plus. Il cherchait la silhouette d'un sans-culotte en bonnet rouge et en carmagnole qui devait, dans son jeu de cartes, remplacer le valet de pique condamné. On gratta à la porte et une fille, une campagnarde, parut. Plus large que haute, rousse, bancale, une loupe lui cachant l'œil gauche, l'œil droit d'un bleu si pâle qu'il en paraissait blanc, les lèvres énormes et les dents débordant les lèvres. Elle demanda à Gamelin si c'était lui le peintre, s'il pouvait lui faire un portrait de son fiancé, Ferrand Jules, volontaire à l'armée des Ardennes. Gamelin répondit qu'il ferait volontiers ce portrait au retour du brave guerrier. La fille demanda avec une douceur pressante que ce fût tout de suite. Le peintre, souriant malgré lui, objecta qu'il ne pouvait rien faire sans le modèle. La pauvre créature ne répondit rien. Elle n'avait pas prévu cette difficulté. La tête inclinée sur l'épaule gauche, les mains jointes sur le ventre, elle demeurait inerte et muette et semblait accablée de chagrin. Touchée et amusée de tant de simplicité, le peintre, pour distraire la malheureuse amante, lui mit dans la main un des volontaires qu'il avait peint à l'aquarelle et lui demanda s'il était fait ainsi son fiancé des Ardennes. Elle appliqua sur le papier le regard de son œil morne qui lentement s'anima, puis brilla et resplendit, sa large face s'épanouit en un radieux sourire. « C'est sa vraie ressemblance, » dit-elle enfin. « Mais c'est Ferrand, Jules, au naturel, c'est Ferrand, Jules, tout craché. » Avant que le peintre eût songé à lui tirer la feuille des mains, elle la plia soigneusement de ses gros doigts rouges et en fit un tout petit carré qu'elle coula sur son cœur entre le busque et la chemise, remit à l'artiste un assignat de 5 livres, souhaita le bonsoir à la compagnie et sortit clochante et légère. Dans l'après-midi du même jour, Évariste se rendit chez le citoyen Jean Blaise, marchand d'estampes, qui vendait aussi des boîtes, des cartonnages et toutes sortes de jeux, rue Honoré vis-à-vis de l'oratoire, proche les messageries à l'amour peintre. Le magasin s'ouvrait au rez-de-chaussée d'une maison vieille de 60 ans par une baie dont la voûte portait à sa clé un mascaron cornu. Le cintre de cette baie était rempli par une peinture à l'huile représentant le Sicilien ou l'amour peintre, d'après une composition de Boucher que le père de Jean Blaise avait fait poser en 1770 et qu'effaçait depuis lors le soleil et la pluie. De chaque côté de la porte, une baie semblable, avec une tête de nymphe en clé de voûte, garnie de vitres aussi grandes qu'il s'en était pu trouver, offrait au regard les estampes à la mode et les dernières nouveautés de la gravure en couleur. On y voyait, ce jour-là, des scènes galantes traitées avec une grâce un peu sèche par Boilly, leçons d'amour conjugal et douce résistance dont se scandalisaient les Jacobins et que les purs dénonçaient à la Société des Arts. La promenade publique de Debucourt, avec un petit maître en culotte serein, étalé sur 3 chaises, des chevaux du jeune Karl Vernet, des aérostats, le bain de Virginie et des figures d'après l'antique. Parmi les citoyens dont le flot coulait devant le magasin, c'étaient les plus dégonillés qui s'arrêtaient le plus longtemps devant les 2 belles vitrines, prompts à se distraire, avides d'images et jaloux de prendre, du moins par les yeux, leur part des biens de ce monde. Ils admiraient bouche béante, tandis que les aristocrates donnaient un coup d'œil, fronçaient le sourcil et passaient. Du plus loin qu'il put l'apercevoir, Évariste leva ses regards vers une des fenêtres qui s'ouvrait au-dessus du magasin, celle de gauche, où il y avait un pot d'œillet rouge derrière le balcon de fer à coquilles. Cette fenêtre éclairait la chambre d'Élodie, fille de Jean Blaise. Le marchand d'estampes habitait avec son unique enfant le premier étage de la maison. Évariste, s'étant arrêté un moment comme pour prendre haleine devant l'amour peintre, tourna le bec de canne. Il trouva la citoyenne Élodie, qui, ayant vendu des gravures, 2 compositions de Fragonard fils et de Neigeon, soigneusement choisies entre beaucoup d'autres, avant d'enfermer dans la caisse les assignats qu'elle venait de recevoir, les passait l'un après l'autre entre ses beaux yeux et le jour pour examiner les pontuseaux, les vergeures et le filigrane, inquiète, car il circulait autant de faux papiers que de vrais, ce qui nuisait beaucoup au commerce. Comme autrefois, ce qui imitait la signature du roi, les contrefacteurs de la monnaie nationale étaient punis de mort. Cependant, on trouvait des planches à assignats dans toutes les caves. Les Suisses introduisaient de faux assignats par millions. On les jetait par paquets dans les auberges. Les Anglais en débarquaient tous les jours des ballots sur nos côtes pour discréditer la République et réduire les patriotes à la misère. Élodie craignait de recevoir du mauvais papier et craignait plus encore d'en passer et d'être traitée comme complice de Pitt, s'enfiant toutefois à sa chance et sûre de se tirer d'affaire en toute rencontre. Évariste la regarda de cet air sombre qui, mieux que tous les sourires, exprime l'amour. Elle le regarda avec une moue un peu moqueuse qui retroussait ses yeux noirs, et cette expression lui venait de ce qu'elle se savait aimée, et qu'elle n'était pas fâchée de l'être, et de ce que cette figure-là irrita un amoureux, l'excite à se plaindre, l'induit à se déclarer, s'il ne l'a pas encore fait, ce qui était le cas d'Évariste. Ayant mis les assignats dans la caisse, elle tira de sa corbeille à ouvrage une écharpe blanche qu'elle avait commencé de broder, et se mit à travailler. Elle était laborieuse et coquette, et comme d'instinct elle maniait l'aiguille pour plaire en même temps que pour se faire une parure, elle brodait de façon différente selon ceux qui la regardaient. Elle brodait nonchalamment pour ceux à qui elle voulait communiquer une douce langueur. Elle brodait capricieusement pour ceux qu'elle s'amusait à désespérer un peu. Elle se mit à broder avec soin pour Évariste, en qui elle désirait entretenir un sentiment sérieux. Élodie n'était ni très jeune ni très jolie. On pouvait la trouver laide au premier abord. Brune, le teint olivâtre, sous le grand mouchoir blanc noué négligemment autour de sa tête et d'où s'échappaient les boucles azurées de sa chevelure, ses yeux de feu charbonnaient leurs orbites. Dans son visage rond, aux pommettes saillantes, riant, un peu Camus, agreste et voluptueux, le peintre retrouvait la tête de Faun Borghez, dont il admirait sur un moulage la divine espièglerie. De petites moustaches donnaient de l'accent à ses lèvres ardentes. Un sein, qui semblait gonflé de tendresse, soulevait le fichu croisé à la mode de l'année. Sa taille souple, ses jambes agiles, tout son corps robuste se mouvait avec des grâces sauvages et délicieuses. Son regard, son souffle, les frissons de sa chair, tout en elle demandait le cœur et promettait l'amour. Derrière le comptoir de marchande, elle donnait l'idée d'une nymphe de la danse, d'une bacchante d'opéra, dépouillée de sa peau de lynx, de son tirse et de ses guirlandes, de lierre, contenue, dissimulée, par enchantement dans l'enveloppe modeste d'une ménagère de Chardin. « Mon père n'est pas à la maison, » dit-elle au peintre. « Attendez-le un moment, il ne tardera pas à rentrer. » Des petites mains brunes faisaient courir l'aiguille à travers le limon. « Trouvez-vous ce dessin à votre goût, monsieur Gamelin ?» Gamelin était incapable de feindre, et l'amour, en enflammant son courage, exaltait sa franchise. « Vous brodez avec habileté, citoyenne, mais si vous voulez que je vous le dise, le dessin qui vous a été tracé n'est pas assez simple, assez nu. » Il se ressent du goût affecté qui régna trop longtemps en France dans l'art de décorer les étoffes, les meubles et leurs bris. Ces nœuds, ces guirlandes rappellent le style petit et mesquin qui fut en faveur sous le tyran. Le goût renaît. Hélas, oh, nous revenons de loin. Du temps de l'infâme Louis XV, la décoration avait quelque chose de chinois. On faisait des commodes à gros ventre, à poignées contournées d'un aspect ridicule, qui ne sont bonnes qu'à être mises au feu pour chauffer les patriotes. La simplicité seule est belle. Il faut revenir à l'antique. David dessine des lys et des fauteuils d'après les vases étrusques et les peintures d'Herculanum. J'ai vu de ces lits et de ces fauteuils, dit Élodie, c'est beau. Bientôt, on n'en voudra pas d'autres. Puis, comme vous, j'adore l'antique. Eh bien, citoyenne, reprit Évariste, si vous avez orné cette écharpe d'une grecque, de feuilles de pierre, de serpents ou de flèches entrecroisées, elle eût été digne d'une spartiate, et de vous. Vous pouvez cependant garder un modèle en le simplifiant, en le ramenant à la ligne droite. Elle lui demanda ce qu'il fallait ôter. Il se pencha sur l'écharpe. Ses joues effleurèrent les boucles d'Élodie. Leurs mains se rencontraient sur le linon, leurs souffles se mêlaient. Évariste goûtait en ce moment une joie infinie. Mais, sentant près de ses lèvres les lèvres d'Élodie, il craignait d'avoir offensé la jeune fille et se retira brusquement. La citoyenne Blaise aimait Évariste Gamelin. Elle le trouvait superbe avec ses grands yeux ardents, son beau visage ovale, sa pâleur, ses abondants cheveux noirs partagés sur le front et tombant à flots sur les épaules, son maintien grave, son air froid, son abord sévère, sa parole ferme qui ne flattait point. Et comme elle l'aimait, elle lui prêtait un fier génie d'artiste qui éclaterait un jour en chef-d'œuvre et rendrait son nom célèbre, et elle l'en aimait davantage. La citoyenne Blaise n'avait pas un culte pour la pudeur virile. Sa morale n'était pas offensée de ce qu'un homme cédât à ses passions, à ses goûts, à ses désirs. Elle aimait Évariste, qui était chaste. Elle ne l'aimait pas parce qu'il était chaste, mais elle trouvait à ce qu'il le fût davantage de ne concevoir ni jalousie ni soupçon et de ne point craindre de rival. Toutefois, en cet instant, elle le jugea un peu trop réservé. Si l'aricide Racine, qui aimait Hippolyte, admirait la vertu farouche du jeune héros, c'était avec l'espoir d'en triompher, et elle eut bientôt gémi d'une sévérité de mœurs qui n'eut point adouci pour elle. Et dès qu'elle en trouva l'occasion, elle se déclara plus qu'à demi pour le contraindre à se déclarer lui-même. À l'exemple de cette tendre aricie, la citoyenne Blaise n'est pas très éloignée de croire qu'en amour, la femme est tenue à faire des avances. Les plus aimants, se disait-elle, sont les plus timides. Ils ont besoin d'aide et d'encouragement. Telle est au reste leur candeur qu'une femme peut faire la moitié du chemin et même davantage sans qu'ils s'en aperçoivent, en leur ménageant les apparences d'une attaque audacieuse et la gloire de la conquête. Ce qui la tranquillisait sur l'issue de l'affaire, c'est qu'elle savait avec certitude, et aussi n'y avait-il pas de doute à ce sujet, qu'Évariste, avant que la révolution l'eût héroïsé, avait aimé très humainement une femme, une humble créature, la concierge de l'Académie. Élodie, qui n'était point une ingénue, concevait différentes sortes d'amour. Le sentiment que lui inspirait Évariste était assez profond pour qu'elle pensât s'engager sa vie. Elle était toute disposée à l'épouser, mais s'attendait à ce que son père n'approuvât pas l'union de sa fille unique avec un artiste obscur et pauvre. Gamelin n'avait rien. Le marchand d'estampes promet de grosses sommes d'argent. L'amour peintre lui rapportait beaucoup d'âge, l'âge au plus encore, et il s'est associé à un fournisseur qui livrait à sa cavalerie de la République des bottes de jonc et de l'avoine mouillée. Enfin, le fils du coutelier de la rue Saint-Dominique était un mince personnage auprès de l'éditeur d'estampes connu dans toute l'Europe, apparenté aux Blaiseaux, aux Bazan, aux Didot, et qui fréquentait chez les citoyens Saint-Pierre et Florian. Ce n'est pas qu'en fille obéissante, elle tint le consentement de son père pour nécessaire à son établissement. Le père, veuve de bonheur, d'humeur avide et légère, grand coureur de filles, grand brasseur d'affaires, n'était jamais occupé d'elle. L'avait laissé grandir libre, sans conseil, sans amitié, soucieux non de surveiller, mais d'ignorer la conduite de cette fille, dont il appréciait en connaisseur le tempérament fougueux et les moyens de séduction bien autrement puissants qu'un joli visage. Trop généreuse pour se garder, trop intelligente pour se perdre sage dans ses folies, le goût d'aimer ne lui avait jamais fait oublier les convenances sociales. Son père, lui, savait un gré infini de cette prudence, et comme elle tenait de lui le sens du commerce et le goût des entreprises, Il ne s'inquiétait pas des raisons mystérieuses qui détournaient du mariage une fille si nubile et la retenaient à la maison, où elle valait une gouvernante et quatre commis. À 27 ans, elle se sentait d'âge et d'expérience à faire sa vie elle-même, et n'éprouvait nul besoin de demander les conseils ou de suivre la volonté d'un père jeune, facile et distrait. Mais pour qu'elle épousât Gamelin, il aurait fallu que M. Blaise fît un sort à ce gendre pauvre, l'intéressât à la maison, lui assura des travaux comme il en assurait à plusieurs artistes, enfin, d'une manière ou d'une autre, lui créa des ressources. Et cela, elle jugeait impossible que l'un offrît et que l'autre acceptât, tant il y avait peu de sympathie entre ces deux hommes. Cette difficulté embarrassait la tendre et sage Élodie. Elle envisageait, sans terreur, l'idée de s'unir à son ami par des liens secrets et de prendre l'auteur de la nature pour seul témoin de leur foi mutuelle. Sa philosophie ne trouvait pas condamnable une telle union que l'indépendance où elle vivait rendait possible et à laquelle le caractère honnête et vertueux d'Évariste donnerait une force rassurante. Mais Gamelin avait grand-peine à subsister et à soutenir la vie de sa vieille mère. Il ne semblait pas qu'il y eût dans une existence si droite place pour un amour, même réduit à la simplicité de la nature. D'ailleurs, Évariste n'aurait pas encore déclaré ses sentiments ni fait part de ses intentions. La citoyenne Blaise espérait bien l'y obliger avant peu. Elle arrêta du même coup ses méditations et son aiguille. « Citoyen Évariste, dit-elle, cette écharpe ne me plaira qu'autant qu'elle vous plaira à vous-même. Dessinez-moi un modèle, je vous prie. En attendant, je déferai comme Pénélope ce qui a été fait en votre absence. » Il répondit avec un enthousiasme sombre. « Je m'y engage, citoyenne. Je vous déciderai le glaive d'Harmodius, une épée dans une guirlande. » Et, tirant son crayon, il esquissa des épées et des fleurs dans ce style sobre et nu qu'il aimait. Et en même temps, il exposait ses doctrines. « Les Français régénérés, disait-il, doivent répudier tous les laids de la servitude. » Le mauvais goût, la mauvaise forme, le mauvais dessin. Watteau, Boucher, Fragonard, mais travaillaient pour des tyrans et pour des esclaves. Dans leurs ouvrages, nul sentiment du bon style, ni de la ligne pure. Nulle part, la nature, ni la vérité. Des masques, des poupées, des chiffons, des singeries. La postérité méprisera leurs frivoles ouvrages. Dans 100 ans, tous les tableaux de Watteau ont péri, méprisés dans les greniers. En 1893, les étudiants en peinture recouvriront de leurs ébauches les toiles de Boucher. David a ouvert la voie. Il se rapproche de l'antique. Mais il n'est pas encore assez simple, assez grand, assez nu. Nos artistes ont encore bien des secrets à apprendre, des frises d'Herculanum, des bas-reliefs romains, des vases étrusques. Il parla longtemps de la beauté antique, puis revint à Fragonard, qu'il poursuivait d'une haine inextinguible. « Le connaissez-vous, citoyenne ?» Élodie fit signe que oui. « Vous connaissez aussi le bonhomme Greuze, qui certes est suffisamment ridicule avec son habit écarlate et son épée. » Mais il a l'air d'un sage de la Grèce auprès de Fragonard. Je l'ai rencontré il y a quelque temps, ce misérable vieillard, trottinant sous les arcades du palais Égalité, poudré, galant, frétillant, aigriard, hideux. À cette vue, je souhaitais qu'à défaut d'Apollon, quelque vigoureux ami des arts le pendît à un arbre et l'écorcha comme Martias, par exemple éternel ou mauvais peintre. Élodie fixa sur lui le regard de ses yeux gais et voluptueux. « Vous savez aimer, monsieur Gamelin. Faut-il croire que vous savez aussi aimer ?»« C'est vous, Gamelin ?» fit une voix de ténor. La voix du citoyen Blaise qui rentrait dans son magasin, bottes craquantes, breloques sonnantes, basque envolée et coiffé d'un énorme chapeau noir dont les cornes lui descendaient sur les épaules. Élodie, emportant sa corbeille, monta dans sa chambre. « Eh bien, Gamelin, demanda le citoyen Blaise, m'apportez-vous quelque chose de neuf ?»« Peut-être, dit le prince, et il exposa son idée. « Mais nos cartes à jouer offrent un contraste choquant avec l'état des mœurs. Les noms de valets et de rois offensent les oreilles d'un patriote. Alors j'ai conçu ou exécuté le nouveau jeu de cartes révolutionnaire dans lequel aux rois, aux dames, aux valets sont substituées les libertés, les égalités, les fraternités. Les as, entourés de faisceaux, s'appellent les lois. Vous annoncez liberté de trèfle, égalité de pique, fraternité de carreau, loi de cœur. Je crois ces cartes assez fièrement dessinées. J'ai l'intention de les faire graver en taille douce par Desmahis et de prendre un brevet. » Et tirant de son carton quelques figures terminées à l'aquarelle, l'artiste les tendit au marchand d'estampes. Le citoyen Blaise refusa de les prendre et détourna la tête. Le citoyen Blaise refusa de les prendre et détourna la tête. « Mon petit, portez-le à la convention, qui vous accordera les honneurs de la séance. Mais n'espérez pas tirer un sol de votre nouvelle invention, qui n'est pas nouvelle. Vous vous êtes levé trop tard. Votre jeu de cartes révolutionnaire est le troisième qu'on m'apporte. Votre camarade Dugourc m'a offert la semaine dernière un jeu de piquet avec quatre génies, quatre libertés, quatre égalités. Et on m'a proposé un autre jeu où il y avait des sages, des braves, Caton, Rousseau, Hannibal, qui sais-je encore. Et ces cartes avaient sur les vôtres, mon ami, l'avantage d'être grossièrement dessinées et gravées sur bois au canif. Que vous connaissez peu les hommes pour croire que les joueurs se serviront de cartes dessinées dans le goût de David et gravées dans la manière de Bartolozzi. Et c'est encore une étrange illusion de croire qu'il faille faire tant de façons pour conformer les vieux jeux de cartes aux idées actuelles. De même, les bons sans-culottes en corrigent l'incivisme en annonçant le tyran ou simplement le gros cochon. Ils se servent de leurs cartes crasseuses et n'en achètent jamais d'autres. La grande consommation de jeux se fait dans les tripots du palais Égalité. Je vous conseille d'y aller, d'offrir aux croupiers et aux pontes vos libertés, vos égalités, vos... comment dites-vous, vos lois de cœur, et vous viendrez me dire comment ils vous ont reçu. » Le citoyen Blaise s'assit sur le comptoir, donna des pichenettes sur sa culotte nankin pour en ôter les grains de tabac, et regardant Gamelin avec une douce pitié, « Permettez-moi de vous donner un conseil, citoyen peintre. Si vous voulez signer et gagner votre vie, laissez-là vos cartes patriotiques, laissez-là vos symboles révolutionnaires, vos Hercules, vos Ides, vos furies, poursuivant le crime, vos génies de la liberté, et peignez-moi de jolies filles. L'ardeur des citoyens les régénérer tiédit avec le temps, et les hommes aimeront toujours les femmes. Faites-moi des femmes toutes roses, avec de petits pieds, de petites mains, et mettez-vous dans la tête que personne ne s'intéresse plus à la révolution, et qu'on ne veut plus en entendre parler. » Du coup, Évariste Gamelin se cabra. Quoi, ne plus entendre parler de la Révolution? Mais l'établissement de la liberté, les victoires de nos armées, le châtiment des tyrans sont des événements qui étonneront la postérité la plus reculée. Mais comment n'en pourrons-nous pas être frappés? Quoi, la secte du sans-culotte, Jésus a duré près de 18 siècles. Et le culte de la liberté serait aboli après 4 ans à peine d'existence? Mais Jean Blaise, d'un air de supériorité, vous êtes dans le rêve, moi je suis dans la vie. Croyez-moi, mon ami, la révolution ennuie, elle dure trop. 5 ans d'enthousiasme, 5 ans d'embrassades, de massacres, de discours, de Marseillaise, de tocsins, d'aristocrates à la lanterne, de têtes portées sur des piques de femmes à cheval sur des cartons, canons d'arbres de la liberté, coiffés du bonnet rouge, de jeunes filles et de vieillards traînés en robe blanche dans des champs de fleurs, d'emprisonnement, de guillotine, de rationnement, d'affiches, de cocardes, de panaches, de sable, de carmagnoles, c'est long. Et puis l'on commence à n'y plus rien comprendre. Nous en avons trop vu de ces grands citoyens que vous n'avez conduits au Capitole que pour les précipiter ensuite de la roche sarpeyenne. Nègre, Mirabeau, Lafayette, Bailly, Pétion, Manuel et tant d'autres. Et qui vous a dit que vous ne préparez pas le même sort à vos nouveaux héros? On ne sait plus. Mais nommez-les, citoyen Blaise. Nommez-les, ces héros que nous vous préparons à sacrifier, dit Gamelin, d'un ton qui rappela le marchand d'estampes à la prudence. Mais je suis républicain et patriote, répliqua-t-il la main sur le cœur. Je suis aussi républicain que vous. Je suis aussi patriote que vous, citoyen Évariste Gamelin. Je ne soupçonne pas votre civisme et ne vous accuse nullement de versatilité. Mais sachez que mon civisme et mon dévouement à la chose publique sont attestés par des actes nombreux. Mes principes les voici. Je donne ma confiance à tout individu capable de servir la nation. Devant les hommes que la voie publique désigne au périlleux honneur de pouvoir législatif, comme Marat, comme Robespierre, je m'incline. Je suis prêt à les aider dans la mesure de mes faibles moyens et à leur apporter l'humble concours d'un bon citoyen. Les comités peuvent témoigner de mon zèle et de mon dévouement. En société avec de vrais patriotes, j'ai fourni de la voile et du fourrage à notre brave cavalerie, des souliers à nos soldats. Aujourd'hui même, je fais envoyer des Vernon 60 bœufs à l'armée du Midi, à travers un pays infesté de brigands et battu par les émissaires de Pitt et de Condé. Je ne parle pas, moi, j'agis. Gamelin remit tranquillement ses aquarelles dans son carton, dont il noua les cordons et qu'il passa sous son bras. « C'est une étrange contradiction, dit-il, les dents serrées, que d'aider nos soldats à porter à travers le monde cette liberté qu'on trahit dans ses foyers, en semant le trouble et l'inquiétude dans l'âme de ses défenseurs. Salut, citoyen Blaise !» Avant de s'engager dans la ruelle qui longe l'oratoire, Gamelin, le cœur gros d'amour et de colère, se retourna pour donner un regard aux œillets rouges fleuris sur le rebord d'une fenêtre. Il ne désespérait point du salut de la patrie. Aux propos inciviques de Jean Blaise, il opposait sa foi révolutionnaire. Encore lui fallait-il reconnaître que ce marchand ne prétendait pas, sans quelque apparence de raison, que désormais le peuple de Paris se désintéressait des événements. Hélas, il n'était que trop certain qu'à l'enthousiasme de la première heure succédait l'indifférence générale et qu'on ne reverrait plus les grandes foules unanimes de 89, qu'on ne reverrait plus les millions d'âmes harmonieuses qui se pressaient en 90 autour de l'hôtel des Fédérés. Eh bien, les bons citoyens redoubleraient de zèle et d'audace, réveilleraient le peuple assoupi en lui donnant le choix de la liberté ou de la mort. Ainsi songeait Gamelin, et la pensée d'Élodie soutenait son courage. Arrivé au quai, il vit le soleil descendre dans l'horizon sous des nuées pesantes semblables à des montagnes de lave incandescente. Les toits de la ville baignaient dans une lumière d'or. Les vitres des fenêtres jetaient des éclairs. Et Gamelin imaginait des titans forgeant avec les débris ardents des vieux mondes, Diquet, la cité des reins. N'ayant pas un morceau de pain pour sa mère ni pour lui, il rêvait de s'asseoir à la table sans bout, qui convierait l'univers et où prendrait place l'humanité régénérée. En attendant, il se persuadait que la patrie, en bonne mère, nourrirait son enfant fidèle. Se roidissant contre les dédains du marchand d'estampes, il s'excitait à croire que son idée d'un jeu de cartes révolutionnaire était nouvelle et bonne, et qu'avec ses aquarelles bien réussies, il tenait une fortune sous son bras. Débat, il est gravera, pensait-il, et nous éditerons nous-mêmes le nouveau jeu patriotique, et nous sommes sûrs d'en vendre 10 000 à 20 sols chaque en un mois. Et dans son impatience de réaliser ce projet, il se dirigea à grands pas sur le quai de la ferraille où logeait Desmahis au-dessus du vitrier. On entrait par la boutique. La vitrière avertit Gamelin que le citoyen Desmahis n'était pas chez lui, ce qui ne pouvait beaucoup surprendre le peintre qui savait que son ami était d'humeur vagabonde et dissipée, et qui s'étonnait qu'on pût graver autant et si bien qu'il le faisait avec aussi peu d'assiduité. Gamelin résolut de l'attendre un moment. La femme du vitrier lui offrit un siège. Elle était morose et se plaignait des affaires qui allaient mal. Quoi qu'on lui dit que la Révolution, en cessant, en cassant les carreaux, enrichissait les vitriers. La nuit tombait. Renonçant à attendre son camarade, Gamelin prit congé de la vitrière. Comme il passait sur le pont neuf, il vit déboucher du quai des Morfondus des gardes nationaux à cheval qui refoulaient les passants, portaient des torches et, avec un grand cliquetis de sabres, escortaient d'une charrette qui traînait lentement à la guillotine un homme dont personne ne savait le nom, un ci-devant, le premier condamné d'un nouveau tribunal révolutionnaire. On l'apercevait confusément entre les chapeaux des gardes, assis, les mains liées sur le dos, la tête nue et ballante, tournée vers le cul de la charrette. Le bourreau se tenait debout près de lui, appuyé à la ridelle. Les passants arrêtés disaient entre eux que c'était probablement quelque affameur du peuple et regardaient avec indifférence. Gamelin, s'étant approché, reconnut parmi les spectateurs Desmahis, qui s'efforçait de fendre la foule et de couper le cortège. Il l'appela et lui mit la main sur l'épaule. Desmahis tourna la tête. C'était un jeune homme beau et vigoureux. On disait naguère à l'académie qu'il portait la tête de Bacchus sur le corps d'Hercule. Ses amis l'appelaient Barbarou à cause de sa ressemblance avec ses représentants du peuple. « Viens, lui dit Gamelin, je vais te parler d'une affaire importante. »« Laisse-moi, répondit vivement Desmahis. » Et il jeta quelques mots indistincts en guettant le moment de s'élancer. « Je suivais une femme divine en chapeau de paille, une ouvrière de mode, ses cheveux blonds sur le dos. » Cette maudite charrette m'en a séparé. Elle a passé devant, hein. Elle est déjà au bout du pont. » Gamelin tenta de le retenir par son habit, jurant que la chose était d'importance. Mais Desmahis s'était déjà coulé à travers chevaux, gardes, sabres et torches, et poursuivait la demoiselle de mode.